17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin aujourd'hui, Fadela Méal. Merci d'être là, Fadela.
Merci Nasser, merci à vous tous.
Les auditrices, les auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes présidente des Mariannes de la diversité, ancienne conseillère de Paris, et puis vice-présidente de l'Institut Robert Schuman. Robert Schuman qui a tant travaillé pour construire l'Europe, une Europe qui vole en éclats aujourd'hui, avec les xénophobies, les partis d'extrême droite qui arrivent au pouvoir, et puis surtout avec ces hégémonies de pays qui envahissent d'autres, la Turquie, la Russie, avec ce qui se passe en Ukraine. On y reviendra dans un instant. Mais surtout, l'actualité, c'est la violence faite aux femmes en France et dans le monde, notamment en Iran et en Afghanistan, avec ces femmes qui sont... qu'on appelle l'autre moitié du ciel et qui sont, en fonction des pays concernés, voués aux gémonies, manipulés, sont assimilés au diable dans certains pays. Et donc, on a l'impression qu'on régresse quand même, même sur le droit à l'avortement. On a du recul, notamment aux États-Unis. Hein. Donc, aujourd'hui, donc, on va parler des violences faites aux femmes. Emmanuel Macron a refait de son nouveau quinquennat une année consacrée à l'égalité homme-femme et à la parité. Et vous allez nous dire d'abord si son bilan de ce point de vue-là du premier quinquennat a été positif ou pas.
Mais écoutez, je peux dire que oui, puisque tout ce qui permet et participe pour une meilleure connaissance des situations et des diagnostics, c'est une bonne chose. En plus, quand on met en place des outils, et je pense qu'il y en a eu pas mal avec le ministère de Madame Schiappa, avec son Grenelle, qui a permis vraiment d'aller un peu plus loin au niveau de la prise en charge, de l'accompagnement et de l'écoute et de la libération de la parole. On vient de fêter les 5 ans de MeToo. Et donc, c'est vrai que...
Justement, j'allais vous en parler de MeToo. Oui. Ça a été l'explosion de MeToo.
C'est une déferlante.
Avec notamment une affaire emblématique qui est celle de Weinstein aux États-Unis.
Tout à fait. Tout à fait. Dans le milieu du cinéma, on sait que c'était un milieu qui était très opaque, où beaucoup de choses, de relations de domination existaient. Mais personne, évidemment, vu la puissance de feu de Weinstein et aussi des producteurs, c'était difficile pour les actrices de parler.
Alors MeToo, c'est un barrage à la peur. On va revenir à cette
peur.
C'est
un barrage à souvent la parole.
Souvent, les femmes ont peur parce que si elles parlent, elles n'ont pas accès à un profil de carrière, elles ne peuvent plus évoluer.
Vous avez raison, il y a les représailles. Voilà. Mais au-delà, je pense qu'au-delà de la peur, c'est la honte. La honte d'avoir été finalement violentée. Parce que, quelque part, il y a tout ce travail qui nous reste à faire à expliquer que les femmes sont d'abord des victimes. Et si vous voulez, quand vous êtes pétri de honte et que vous n'arrivez pas à assumer cet acte qui a été quand même un traumatisme dans votre corps et dans votre esprit, ben, il peut se passer 20 ans.
Alors, il y a un grand débat autour du consentement. C'est-à-dire, on dit que le consentement, ce n'est pas l'acceptation. Il y a un grand débat de terminologie à ce niveau-là. Alors, parce que souvent, les gens qui sont accusés, on dit oui, mais c'était un acte consenti.
Et on revient sur ce consentement, c'est une façon encore de faire diversion. Moi, je voudrais revenir à l'essentiel, parce que moi, je veux bien qu'on discute du débat du consentement. Enfin, tout le monde sait.
C'est important parce que c'est un prolongement juridique.
Mais vous avez raison, en même temps.
C'est la blague de Coluche. Elle voulait pas, mais moi je voulais.
Vous avez raison. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand cette relation, c'est ça le problème aujourd'hui qu'on essaye de donner, c'est de montrer que la relation, elle est de l'ordre privé. On le voit bien avec les affaires politiques qui sont en train d'agiter actuellement notre paysage politique. Quaternès, Bayou, Baupin. On dit c'est des affaires privées, c'est un divorce. Non. Les violences faites aux femmes ne sont pas de l'ordre du privé. C'est la première réflexion et c'est la première avancée qu'il y a eu. Vous savez, quand on a monté avec 22 associations la première année de la cause nationale de lutte contre les violences, ça a été sur ça. On a dit les violences ne sont pas une affaire privée. C'est une affaire, je dirais, d'ordre public et même de façon sanitaire.
Même une violence à l'intérieur d'un couple qui lui-même soit marié, soit pacsé.
Bien sûr, on peut être violé par son mari.
On peut être violé par son mari.
Bah, évidemment. Évidemment, et aujourd'hui, c'est l'emprise du corps à partir d'une domination n'est plus tolérable. Donc, c'est pas parce que vous avez un acte de mariage que vous pouvez violenter, frapper, violer vos femmes, votre femme. Et donc, moi, je voudrais revenir là-dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est très important. Et d'ailleurs, le 25 novembre, vous savez que c'est la journée internationale de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et nous voudrions, nous les Mariannes, mettre en avant le champ politique. Nous l'avons commencé à le faire au mois de mars de l'année dernière. C'était assez inaudible parce que, bon, on pensait que les premières violences, c'était le monde de l'entreprise, les médias, parce que les médias ont beaucoup contribué avec MeToo à mettre un peu plus de transparence dans ces lieux. Mais il reste le monde politique.
Et là, justement, là-dessus, dans ce champ politique, est-ce que vous diriez que l'exemplarité du monde politique est au-dessus de tout, c'est-à-dire que l'homme politique, la femme politique doit absolument donner l'exemple puisqu'elle est en charge des conduites de la cité.
Donc, vous avez raison.
Est-ce que l'exemplarité s'applique de façon exceptionnelle au monde politique?
Mais surtout quand vous voyez les mêmes personnages qui sont dans toutes les tribunes de donner des leçons de bonne conduite à leurs collègues, qui sont dans les marches de soutien pour les femmes, bah c'est ça qui choque aujourd'hui. C'est le décalage entre le discours et la réalité.
Ah, vous faites allusion à Europe Écologie Les Verts, à la France Insoumise, à tous ces partis de gauche, et qui ont fait, en tout cas, de la lutte contre les violences aux femmes,
une lutte emblématique. Et d'ailleurs, moi, vous savez, dans mon manifeste que nous avons sorti au mois de février 2022, c'était 2021, nous avons mis en avant la possibilité de mettre en place ces structures, vous savez, infra-parties, pour réguler les difficultés, pour les diagnostiquer, parce que c'était quand même l'omerta. Et nous trouvions à l'époque que c'était une bonne idée. Mais on voit bien aujourd'hui, avec la mise en œuvre de ces cellules qui existent maintenant dans tous les partis, et notamment les partis de gauche, eh bien, il y a des instrumentalisations qui sont évidentes. Il y a des dérives qui sont évidentes. Elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Moi, je voyais plutôt ces structures comme un espace pour faire de la pédagogie, pour me signaler, mais pour transmettre après à la justice. Parce qu'il n'appartient pas à des espaces, je dirais, privés, d'ordre privé, attenant à un parti politique, à faire justice soi-même. C'est ce qui est en train de se faire actuellement et je le regrette.
Alors tout de suite, on va dire que ça touche l'ensemble de la classe politique, hein. On se rappelle cet homme de droite qui caressait les doigts de pied de ses patientes qui étaient médecins.
Qui a été condamné d'ailleurs.
On se rappelle aussi, bien sûr, ces actes de gynécologie qui étaient des actes un petit peu durs pour les femmes qui les subissaient. Donc ça touche la droite comme la gauche. Ça
tout à fait.
L'ensemble du monde politique.
Vous savez, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, en tant qu'association, on m'avait dit c'est très bien parce que vous touchez la question des immigrés et donc vous voyez bien que ça les concerne directement. Non, ça ne concerne pas plus les immigrés je dirais, les Français bien installés et arrivés de souche, comme on dit maladroitement. Et donc, ça concerne tous les partis, ça concerne toutes les classes sociales, ça concerne tous les âges. C'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est un mal insidieux, un poison qui est en train, de toute façon est dénoncé, bien évidemment, mais qui existe parce qu'il y a une culture du patriarcat. Et donc, ça va bien au-delà, je dirais, même des relations culturelles.
On se retrouve dans un instant. Vous êtes sur Les Grands Témoins avec Fadela Méal.
Les Grands Témoins revient dans un instant. 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Fadela Méal, qu'on est ravis de recevoir dans Les Grands Témoins. Fadela Méal, on parle d'immigration zéro, de sécurité, d'insécurité zéro. Est-ce que vous êtes pour une violence faite aux femmes zéro? Est-ce que vous pensez que c'est possible?
Bah, vous savez, l'immigration zéro, j'y ai jamais cru. Donc, pour les violences, je crois qu'il faut tendre vers cet objectif, vers cet idéal, bien évidemment. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme est meurtrie, à chaque fois qu'elle est harcelée, à chaque fois qu'elle est violentée. Alors, je parle des, bien sûr, des violences physiques, mais aussi psychologiques. On les oublie parce que les relations de domination, elles viennent aussi par cette emprise que peut avoir un homme sur sa conjointe. Et donc, oui, il faut tendre vers. Alors après, il reste encore beaucoup à faire. Moi, j'ai beaucoup milité pour qu'il y ait un parquet spécifique dédié aux questions des femmes, comme il y a eu un parquet financier, parce que il me semble que malgré les volontés, malgré les formations, tous les magistrats ne sont pas prêts à appréhender, parce qu'un magistrat, vous savez que c'est une profession qui s'est beaucoup féminisée, mais il y a encore des a priori qui restent, et même s'il y a un travail qui est fait, qui est réel au ministère.
Est-ce que vous diriez que les violences faites aux femmes qui sont aujourd'hui au premier plan, entre guillemets, pour paraphraser et parodier un mot de Engels, c'est la maladie infantile des démocraties modernes. Est-ce que vous pensez que les violences sexistes, c'est avoir mal à la démocratie et c'est une démocratie imparfaite?
Mais vous avez raison. À partir du moment où vous marginalisez un corps social, les femmes, les handicapés, les LBTG, c'est évidemment une très grave atteinte à la démocratie. Et vous savez que on dit souvent, mais c'est la marge qui tient la feuille. Et donc l'unité de la démocratie, c'est quand même de vivre ensemble et de vivre harmonieusement et paisiblement. Et donc je pense que vous avez raison, c'est une maladie infantile de la démocratie, mais en même temps, c'est pas un luxe, c'est vraiment quelque chose de vital pour cette démocratie. Parce que dans d'autres pays, vous avez cité en préambule, que ce soit aujourd'hui l'Iran, l'Afghanistan ou même l'Algérie, enfin dans les pays du Maghreb, l'emprise des hommes est très très importante. Et c'est vrai que ça peut être considéré comme un fait complètement marginal et pas essentiel au fonctionnement de la société, parce qu'il va de soi. Il va de soi. Ce qui est, salutaire dans notre démocratie, c'est que nous ne l'acceptons pas. Ça ne va pas de soi qu'une femme soit infériorisée, marginalisée, discriminée, pour tout dire. Ça ne va pas de soi. Donc c'est vraiment un réflexe démocratique très très important.
Pour expliquer et valider votre argument de dire ce n'est pas une affaire privée, mais c'est une affaire publique, vous faites appel aux éléments de domination à rappeler, qui ont fait l'objet de travaux considérables de Pierre Bourdieu. Est-ce que cette domination, comment vous la définissez, comment vous l'expliquez et comment on peut la combattre?
Ben, écoutez, la domination, elle commence à partir du moment où vous infériorisez quelque chose ou quelqu'un. C'est-à-dire que vous admettez qu'une femme et un homme sont différents. Bah, il n'y a pas de mal à le voir, et sur le plan anatomique, sur le plan du comportement, très certainement. Mais là où les choses, j'allais dire, se gâtent un peu, c'est quand vous considérez que certaines caractéristiques vous donnent plus de droits que d'autres. En fait, on revient toujours, et j'aime bien votre analyse autour de la démocratie, parce que c'est ça, c'est le principe d'égalité. On ne demande pas plus de droits, on demande les mêmes droits. Et quand, au prétexte qu'on considère que vous avez des compétences purement féminines, par exemple, moi j'ai été quand même, vous l'avez rappelé, ancienne conseillère de Paris, donc je connais bien la traçabilité de tous les élus pour accéder à leur poste. Ben ça ne va pas de soi, ça ne va pas de soi. Il fut une époque heureusement révolue quand vous étiez dans une municipalité, que vous proposiez votre candidature pour être adjointe à la finance, eh bien, ça n'allait pas de soi. Par contre, quand vous dites « Ah oui, je serai à la petite enfance », on applaudissait des deux mains. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du plafond de verre, hein, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais moi, j'ajouterais les parois de verre, c'est-à-dire que vous êtes dans des filières et qui font que ça, c'est la représentation qu'a l'autre, et notamment l'homme, sur vous. Et donc, quand vous dites, eh bien, moi, j'aimerais bien être adjointe à l'urbanisme, adjointe aux comptes financiers, c'est compliqué. Ça l'est plus tellement, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a quand même fait exploser ce plafond.
Alors, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a donné le droit de vote aux femmes.
Oui, 46.
Il y a encore des endroits, vous citiez l'Algérie, où une femme a besoin de l'accord de son mari pour ouvrir un compte en banque. C'est aujourd'hui, c'est une réalité en Algérie. Est-ce que, il n'y a pas si longtemps aussi, on disait que le cerveau des femmes était plus petit que le cerveau des hommes, etc., etc. Et là, on a un retour en arrière, où des pays comme la Pologne, la Hongrie, où les États-Unis reviennent notamment sur l'avortement, et remettent un petit peu, donnent un coup de canif, un grand coup de canif, au progrès qui ont été faits sur le plan de l'égalité homme-femme et des droits des femmes.
Raison.
Et vous êtes auteur d'un manifeste.
Oui.
De ce point de vue-là, parlez-en.
Alors, plusieurs choses. Ce que vous dites me fait réfléchir et me fait penser à une anecdote que j'ai eue avec ma fille. Ma fille qui a plus de 30 ans maintenant. Et j'avais fait un livre sur, justement, le droit des femmes dans tous les pays avec des témoignages. Et elle me disait, maman, mais il faut que tu arrêtes maintenant parce que tout va bien. On n'a plus du tout les mêmes difficultés. On peut choisir librement notre sexualité, notre contraception. Et je lui disais, à cette époque-là, ça n'était pas si d'actualité. Mais je lui disais, les droits peuvent être remis en cause. Il n'existe pas des droits inaliénables. Tout peut être, le rapport avec la société, c'est ça qui détermine l'état du droit. Et donc,
c'est un équilibre permanent.
C'est un équilibre et c'est une lutte permanente.
Comme la laïcité,
permanente.
Comme la démocratie.
Et vous avez raison, en Europe, il y a des reculs fondamentaux aujourd'hui sur le droit à l'avortement, sur...
comment vous avez ça? Parce que vous êtes vice-présidente de l'Institut Robert Schuman, hein, Robert Schuman qu'on ne présente plus, qui est le père de l'Europe. Comment vous analysez ces espèces de reculades en Europe?
Mais écoutez, je l'analyse. D'abord, il faut que je vous dise que je suis chargée de la culture, parce que je pense, comme me disait, je crois que c'est Monet qui disait, si j'avais dû commencer l'Europe...
Jean Monet aussi, hein, voilà, j'ai oublié de le citer. Voilà, mais Jean Monet et Robert Schuman, ce sont les deux figures emblématiques de la construction de l'Europe.
Et il disait, je commencerai par la culture, parce que la culture, c'est le ciment. C'est ça qui fonde nos valeurs. Et les valeurs aujourd'hui d'égalité, vous savez, l'Europe, elle a été vraiment aux avant-postes de la lutte contre les discriminations. C'est d'ailleurs... parce qu'elle a obligé la France à appliquer ces directives que nous avons avancées.
C'était le plus jamais ça.
Alors,
qui s'appliquait aussi
au droit des femmes. Le problème, c'est la montée du populisme. Moi, je l'analyse comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le voyez en Italie, vous le voyez en Hongrie.
C'est-à-dire des partis autoritaires.
Des partis conservateurs. Qui ont mis les femmes aujourd'hui aux avant-postes de leur lutte conservatrice.
Alors c'est quoi? Et on met les femmes en avant-poste? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce sont les femmes qui exploitent les autres femmes?
Non, parce que les femmes sont des marqueurs civilisationnels. Et la place que vous leur faites, eh bien, elles voient l'état d'avancée de démocratie de la société. Et si vous considérez qu'à leur place, c'est la cuisine, qu'elles doivent élever des enfants et être dans la fécondité, c'est-à-dire que vous considérez aujourd'hui que c'est la société que vous voulez présenter. Donc, je veux dire, c'est un marqueur comme un autre, mais c'est un marqueur important.
Mais longtemps, on
l'a considéré...
D'ailleurs,
vous avez bien vu que l'extrême droite aujourd'hui, en France, elle est quand même partie pour beaucoup autour, à la fois le premier marqueur, c'est l'immigration, mais aussi une autre façon de voir la féminité.
Oui, et traditionnellement, on dit que là où on met des femmes, on fait avancer la démocratie. C'est en tout cas comme ça qu'on fait reculer,
la, place des femmes,
on fait reculer
degré,
la guerre, on fait avancer la démocratie, on fait reculer les violences.
Oui.
Et là, on a des femmes, Marine Le Pen en France, la leader d'extrême droite en Italie, je ne me rappelle plus son nom, en Angleterre c'est un peu pareil. Donc on a des femmes qui sont...
vous avez raison, vous avez raison, c'est un des paradoxes et c'est quelque chose que nous constatons, c'est-à-dire que beaucoup de leaders de populistes sont des femmes. Parce que ça permet aussi d'humaniser Parce que vous savez, les leaders à la Duce, c'est plus très en termes commercial pour ainsi dire, c'est plus très vendeur. Donc aujourd'hui, on a euphémisé un peu cette figure et on fait que les femmes, d'ailleurs, elles le passent avec beaucoup plus quand Marine Le Pen parle de ses chats. C'est sûr qu'on a envie de dire, il y a un cœur qui bat autour et donc si elle aime les chats, elle doit aimer les humains et
les en tout cas, c'est sûr que caresser un animal, les chats en particulier, fait baisser la tension artérielle. On en revient dans un instant sur dans les grands témoins avec Fadi Lamel.
Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Fadi Lamel, on dit souvent que ce qui se passe en France a des répercussions dans le monde entier. De ce point de vue-là, est-ce que vous considérez que, par exemple, tous les débats ou tous les événements, tous les faits divers autour des violences faites aux femmes et des réponses à la fois sociétales et juridiques qui y sont apportées peuvent avoir une répercussion dans des pays comme l'Iran, comme l'Afghanistan, comme l'Inde, comme l'Algérie, comme la Chine, des pays où souvent on tue des femmes, il y a encore la vendetta, hein, l'adultère ou la fille qui s'est un petit peu amourachée avant de se marier, on la tue, on l'enterre et on n'est pas puni.
Ça c'est pas les crimes d'honneur, oui.
Les crimes d'honneur, ça se passe en Inde, ça se passe au Pakistan.
Bien sûr.
Donc est-ce que vous considérez que de ce point de vue-là, il faut pas faire de cadeaux en France parce que le monde est à l'écoute de la France, le monde est à l'écoute des valeurs véhiculées par la Révolution française.
Vous avez complètement raison. La place dans le monde, d'ailleurs, même sur le plan international, la France a une place très singulière parce que c'est celle qui personnifie le siècle des Lumières et les avancées les plus importantes aussi en termes de démocratie dans certains cas. Et c'est pas un hasard si Olympe de Gouges, la première a été décapitée parce qu'elle disait je peux monter à la guillotine, si je monte à la guillotine je peux aussi monter dans un prétoire. Et donc on a cette vision de la femme française qui a été quand même aux avant-postes des luttes de libération.
Et puis on se rappelle le petit mot d'Elisabeth Borne quand elle a été nommée Premier ministre.
Tout
aussi.
À fait, vous savez, c'est quelque chose sur lequel j'ai milité moi l'année dernière. Et on me disait que, en fait, c'était quelque chose de complètement accessoire, en disant d'ailleurs, je comprends pas que le duo de l'exécutif au plus haut niveau, le président et ne soit pas paritaire. Donc j'avais émis cette hypothèse qui a été suivie, j'en suis très heureuse. Mais je voudrais dire que quand même j'observe quelques dérives par rapport au féminisme et notamment aux positions de certains. Moi je suis assez d'accord pour que on aille au fond des problèmes, c'est-à-dire les problèmes aujourd'hui c'est quoi? C'est un logement, c'est les discriminations liées au logement, c'est les discriminations liées à l'emploi, c'est la place des femmes dans la fonction publique, c'est dans l'hôpital qu'elles sont aujourd'hui dans les soignants, ce que font les femmes. Après, j'entends beaucoup de médias et en tout cas une médiatisation excessive sur des épiphénomènes. Vous savez, quand Rousseau dit le barbecue, c'est finalement la domination de l'homme par la viande.
Quand on parle de Rousseau, c'est Sandrine Rousseau.
Et par rapport à l'extérieur, à l'international, c'est pour ça que moi je m'étonne pas que ce féminisme-là, aujourd'hui, soit regardé avec beaucoup de critiques. Regardez ce qui s'est passé avec Rousseau, dont j'ai beaucoup d'estime. Qui a beaucoup de courage, mais parfois elle se perd dans des combats qui ne sont pas d'actualité. Elle a été huée lors de la marche des Iraniennes parce que les Iraniennes ne comprennent pas qu'on puisse être sur ces sujets qui sont non pas anecdotiques, mais enfin aujourd'hui il y a des femmes qui meurent, 200 Iraniennes sont mortes, plus de quelques milliers qui sont blessées parce qu'elles ne peuvent pas.
Des disparus, des arrestations.
Vous avez raison, leur corps n'est pas que selon la police du vêtement, la police des mœurs n'est pas couvert convenablement. Voilà des problèmes essentiels. Des gens meurent aujourd'hui pour ça. Donc, je pense qu'il faut que le féminisme en France, et Dieu merci, c'est quand même le plus grand nombre, travaille sur ces questions. Moi, je suis très attachée à la situation des femmes issues de l'immigration ou immigrées parce que c'est la double peine. Quand elles sont obligées d'accepter les violences à cause de la relation administrative qu'elles peuvent avoir avec leur mari, parce que c'est la perte de la carte de séjour. Heureusement, on a depuis avancé sur le sujet, mais Évidemment qu'elles sont muettes, sont difficiles.
En fait, vous pointez du doigt l'autonomie de la femme. C'est-à-dire qu'elle doit être autonome juridiquement, financièrement, de façon à s'extraire de la domination que vous avancez, pour pouvoir examiner et avancer en tant que personne. C'est ça.
Me pose souvent la question du voile, qui est, paraît-il, un marqueur d'aliénation. Moi, j'ai envie de dire, ici, en France, c'est vrai que certaines femmes veulent, moi je connais des familles ou des mamans qui sont assez âgées et qui veulent continuer à porter leur voile. Moi, je ne pense que ça ne porte atteinte aucunement à ce qui est notre vivre ensemble et nos valeurs.
Après, en fait, la question fondamentale, c'est la liberté.
Mais la liberté,
la femme
bien évidemment
doit être libre de porter son voile ou libre de l'enlever. Donc la question,
oui,
elle est là.
Et
en Iran, il y avait une mèche de cheveux qui dépassait d'un hijab, et on a arrêté cette jeune femme qui a mis le feu aux poudres.
Et pire qu'arrêter, on l'a tuée.
Personnellement, je suis allé en Iran, j'ai vu, que ce soit au bazar ou dans la rue, etc., les femmes ont des très beaux foulards et on voit leurs cheveux qui dépassent.
Il y a une radicalisation.
On comprend pas cette histoire.
Mais si.
Le hijab, il est mis par celles qui ont un travail de fonctionnaire à la télé, dans l'administration, etc. Mais la vie iranienne a toujours fait place aux cheveux qui dépassaient du foulard.
Mais je pense qu'il y a une radicalisation du régime, et comme tous les régimes autoritaires, c'est des réponses qui sont données à l'extérieur. Et pour ressouder un peu quand il y a des fragilités au niveau... Quand un pays se radicalise, c'est que ça ne va pas bien.
Et c'est une jeune femme qui est morte.
Shama Amini,
oui. On n'a pas trop insisté sur le fait qu'elle était kurde. Et donc, c'est aussi le rejet de la diversité en Iran.
Ça, c'est une vraie question.
Il y a des Kurdes iraniens, et ces Kurdes, elles sont discriminées et font l'objet d'une domination aussi particulière. Et peut-être que ceci aussi explique cela.
Bon, tout à fait. Moi, je pense que c'est cumulatif. C'est cumulatif. Et donc, faire un exemple, autant le faire sur les Kurdes qui ne veulent pas rentrer dans le rang et qui veulent garder leur tradition et une certaine forme d'autonomie. Moi, je pense qu'il se passe en Iran. Je reviens à votre question.
Les Kurdes étant sunnites, Kurdes étant sunnites.
Je réponds à votre question, à savoir, aujourd'hui, la France est un phare pour les droits des femmes, vous avez raison. Et ce qu'on fait, et ce qu'on dit, et comment on... Moi, je trouve que la mobilisation n'est pas quand même à la hauteur de ce qu'elle devrait, malheureusement.
Elle n'est plus à la hauteur de ce qui était il y a quelques années.
Il y a quelques années,
La rue en France était beaucoup plus prompte à se soulever sur des atteintes à la liberté.
Mais oui, parce que il y a eu toutes les tentatives de minoration, je sais pas si c'est un terme qui existe, de minorer un petit peu les avancées un peu universalistes. Vous savez, il y a quand même une gauche aujourd'hui qui considère que le relativisme culturel, et ben ça existe, qu'il faut faire attention parce que c'est des peuples en situation d'exploitation, d'impérialisme, et qu'il faut tolérer même des règles qui sont intolérables, surtout quand elles concernent les femmes. Parce que là, on laisse du lest.
Oui, on continue. Oui, là, on laisse du lest et on...
Et
l'intolérable prend des proportions.
Et donc, la France, je pense que les féministes en France doivent avoir ce regard. Parce que, moi, vous savez, j'étais de ceux qui ont vécu dans leur chair ce qui s'est passé en Algérie pendant la décennie noire. Et je me souviens quand je disais, j'avais des camarades aussi de gauche, et quand j'exposais un peu les difficultés des femmes par rapport à ce régime, enfin, c'était pas un régime, c'était un pouvoir qui arrivait, qui voulait être complètement totalitaire, eh bien, il y avait une incompréhension. Les gens disaient, mais enfin, c'est pas si grave, c'est la démocratie, pourquoi pas. Et puis, le voile, pendant la libération, le haïk a été quand même un élément d'émancipation énorme par rapport au colonialisme. Et en même temps, renvoyant dos à dos le régime et les intégristes. Mais moi, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Je pensais qu'il fallait poser des règles et par rapport à des droits universels et inconditionnels pour les femmes, quelles qu'ils soient. Et moi, je connaissais à l'époque, je vous parle des années 80-70, des femmes qui refusaient de mettre le voile. Celles qui veulent le faire, eh ben, elles le font, il n'y a aucun souci, mais celles qui refusaient, et on n'a pas, je pense, à cette époque-là, trouvé beaucoup d'aide.
Et c'est là où, Fadia Meal, ce combat, c'est aussi un combat des hommes.
Bien sûr.
C'est pas avec simplement les hommes. C'est pas un combat que de femmes.
Non, bien sûr. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est un combat universel.
Alors, quelle réponse juridique apporter à tout ça, puisqu'elles sont insuffisantes? On voit depuis le début de l'année en France, il y a de plus en plus de violences sexistes et puis de crimes, malheureusement. Quelle réponse supplémentaire on peut apporter sur le plan juridique et vous, qu'est-ce que vous préparez pour cette journée du 25 novembre?
Moi, je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont avancé. Moi, je vous dis, je reviens toujours à ce parquet spécifique. Je pense qu'il est dans l'esprit actuellement du gouvernement. Je ne suis même pas sûre s'il n'est pas déjà mis en œuvre. Je ne crois pas, mais il y a les prémices de ça. Parce que ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe par le prisme, non pas du spécifique, mais de la prise en compte de la plus-value sur ces questions-là. Et si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'avez pas les éléments, vous ne pouvez pas l'analyser complètement. Après, je pense qu'il y a tout un travail à faire au niveau de l'éducation. Parce que quand même, la culture du viol, ça existe. Ça existe dans chez les petits-enfants, c'est quelque chose qui peut se propager et prospérer. Et donc, il y a ce travail-là aussi.
Et vous préparez quelque chose pour le 25 novembre ?
Moi, je prépare quelque chose qui est encore un manifeste, mais toujours pour demander une instance externalisée des partis politiques, parce que les partis politiques, c'est le cœur aujourd'hui du pouvoir, et je pense que on a vu avec tous les satellites qui ont été créés dans tous les partis pour travailler sur la question des violences aux femmes ne sont pas suffisantes et ont montré leur impasse, et c'est pour ça que c'est une demande très forte que je vais faire au nom des Mariannes de la diversité.
Fadela Merle, merci beaucoup, et on reviendra, j'espère, dans les prochaines semaines, notamment sur l'aspect éducationnel en direction des enfants, en direction des écoles, de ce point de vue-là. On y reviendra parce que vraiment c'est un domaine extrêmement étendu, complexe, et qu'il faut travailler pour construire une société plus libre, plus égale. Merci d'être venu nous voir.
Merci à vous, vous avez raison.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Merci Fadela.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.